c'est l'heure du journal de 12h30, donc par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. Le verdict est tombé. L'entreprise Camaïeu est reprise par la financière immobilière bordelaise et avec elle plus de 2600 salariés. C'était la solution privilégiée par l'intersyndicale et la moins coûteuse d'un point de vue social. Pour autant, on le verra, la joie reste mesurée côté salariés et les juges se sont même autorisés quelques critiques à l'égard de ce projet de reprise. Comme en France, l'Italie durcit ses mesures face au sursaut du coronavirus. Les masques sont maintenant obligatoires le soir. Les boîtes de nuit en plein air sont désormais fermées. Des mesures pas forcément populaires et sur lesquelles tente de surfer l'extrême droite italienne. En Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko est de plus en plus esseulé. Une semaine après sa réélection contestée, les manifestations continuent et son opposante se dit prête à exercer le pouvoir. Un dernier espoir pour le président biélorusse, le soutien de Vladimir Poutine. Nous serons avec Claude Bruyot depuis Moscou. Et puis, trois jours après son accord historique avec les Émirats Arabes Unis, Israël espère aller plus loin et veut se rapprocher rapidement de plusieurs pays voisins. Nous ferons le point en direct de Jérusalem avec Frédéric Mettez à la fin de ce journal. Les salariés de Camaïeu connaissent leur repreneur. C'est le projet de la financière immobilière bordelaise qui a été retenu par le tribunal de commerce de Lille. 2659 salariés vont garder leur emploi pour l'enseigne de prêt-à-porter féminin. Ce projet de reprise était privilégié par l'intersyndicale, celui avec le moins de casse sociale, notamment face au projet controversé de l'actuel PDG de l'entreprise. Cependant, 464 salariés vont tout de même rester sur le carreau. Alors, l'avocat du CSE, maître Stéphane Ducrot, était très mesuré à la fin de l'audience.
C'est un moindre mal puisqu'on va sauvegarder 300 emplois de plus, mais c'est quand même pas une explosion de joie et on a quand même une casse sociale qui est importante. Le CSE avait dit à 21 voix sur 24 qu'il voulait cette offre-là et donc c'est ce qu'a entendu le tribunal.
Les suppressions de postes, elles vont se faire où précisément ?
Dans les magasins. Surtout dans les magasins. On a 125 magasins qui ferment, donc il y aura 3 suppressions de postes à peu près par magasin. Moi, j'ai trouvé que c'était un risque inouï de faire une offre à 1 euro. J'avais vraiment de sérieux doutes sur le fait que le tribunal accepte ça, mais je crois que c'est le nombre d'emplois préservés qui a prévalu.
Maître Stéphane Ducrot, micro de Manon Klein. Les juges ont donc privilégié, on le disait, la solution externe de la financière immobilière bordelaise, celle qui prévoyait de garder un maximum de salariés. Mais les magistrats n'ont pas manqué de souligner la faiblesse de l'offre qui est, on l'a entendu, d'un euro symbolique à l'heure.
Oui, le montant proposé par la financière immobilière bordelaise a été qualifié d'indécent pendant les débats. Dans le jugement, on peut d'ailleurs lire ces mots. Le tribunal regrette amèrement la faiblesse des prix de reprise et particulièrement celle du fonds d'investissement de l'homme d'affaires Michel Ohayon. Cela dit, souligne les juges, l'intérêt de l'entreprise reste sa pérennité et sur ce plan, la proposition de la financière immobilière bordelaise est jugée meilleure que celle de l'actuel PDG. Alors cette offre reprenait plus de magasins et de salariés que celle de la direction, tout en conservant l'actuel prestataire logistique et le siège à Roubaix. Mais ce qui a aussi pesé dans la décision du tribunal, c'est le soutien des salariés. L'équipe dirigeante n'a pas su ou pas pu acquérir ou conserver la confiance du personnel, estiment les juges. L'intersyndicale lui reproche en effet d'avoir coulé l'entreprise, puis l'avoir mise en redressement pour pouvoir la racheter avec une ardoise effacée et en licenciant au passage des personnels. La CGT maintenant se montre confiante pour l'avenir. Selon son représentant au CSE, l'enseigne de prêt-à-porter va pouvoir repartir sur de nouvelles bases.
Les précisions d'Anne-Laure Jumet. François Bayrou signe son retour dans les hautes sphères du pouvoir. Le maire de Pau va être nommé haut-commissaire au plan au mois de septembre. Il sera chargé auprès de l'Élysée de la prospective dans les décennies à venir et tentera d'incarner le retour de la souveraineté économique française après la crise sanitaire. En début de quinquennat, François Bayrou avait été un éphémère ministre de la Justice obligé de démissionner après sa mise en examen pour complicité de détournement de fonds dans une affaire de possible emploi fictif au MoDem. Il n'y a pas eu de passe-droit pour le Puy du Fou, c'est ce qu'affirme ce matin la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Samedi soir, le parc historique vendéen a été autorisé à accueillir 9000 personnes pour son spectacle nocturne en plein air, la Cinécénie. Face à la colère d'une partie du monde du spectacle, une exception à la règle des 5000 autorisés par la préfecture de Vendée. On le disait donc très mal vécu par de nombreux professionnels du spectacle, eux fortement touchés par les mesures sanitaires. Une exception aux arguments fallacieux selon l'infectiologue à l'hôpital Tenon Gilles Pialoux. Il était au micro de Karine Bécard sur France Inter.
Le Puy du Fou, c'est la caricature de ce qui s'est passé pendant 6 mois. C'est-à-dire que des décisions, alors là, en l'occurrence, c'est une décision préfectorale, et puis qui est une décision qui engage ceux qui la prennent. Donc on va voir ce qu'a donné le Puy du Fou et s'ils sont arrivés avec 9000 personnes à maintenir les mesures barrières. Mais par contre, quand vous lisez les arguments de la préfecture, mais ça m'est tombé des mains. Je cite, Le communiqué de presse de la préfecture de la Vendée, je crois. La Vendée connaît un taux d'incidence presque 5 fois moins élevé qu'au niveau national. Mais pourquoi on a besoin d'utiliser la science? Enfin, moi j'ai des enfants, je suis déjà allé au Puy du Fou. Si vous regardez les plaques numérologiques, vous voyez bien que les gens viennent pas tous de Vendée.
De partout.
Enfin, n'utilisez pas, voilà ce que je dis, le message, n'utilisez pas la science pour asseoir les décisions politiques.
Les politiques se sont trop cachés derrière vous pendant 5 ans.
Oui, il y a eu trop de collusion entre le politique et la science. On l'a vu avec l'essai Discovery, on l'a vu avec l'hydroxychloroquine. Il y a eu trop de mélange. Chacun son boulot, les politiques prennent des décisions. Là, le préfet de Vendée a pris une décision, voilà, c'est son droit, et dans les deux sens du terme. Mais n'utilisez pas la science pour appuyer ça, c'est pas possible.
Mm-hmm. L'infectiologue Gilles Pialou, la foire agricole de Châlons-en-Champagne, elle n'a pas eu de dérogation de la part du préfet de la Marne. La 74e édition, prévue début septembre, est officiellement annulée. La foire de Châlons-en-Champagne est la deuxième foire agricole de France après le Salon de l'Agriculture. Elle avait accueilli 250 000 visiteurs l'an dernier. Alors que pour la deuxième fois consécutive, plus de 3000 nouvelles contaminations ont été comptabilisées en 24 heures en France, le port du masque pourrait rapidement devenir obligatoire en entreprise. La mesure sera en tout cas proposée demain par le gouvernement aux partenaires sociaux. Le MEDEF, de son côté, réclame des mesures au cas par cas. Et puis, à Marseille, après la pédagogie, vient le temps des sanctions. 130 CRS sont déployés dans la cité phocéenne et ses alentours pour contrôler le port du masque, obligatoire dans plusieurs quartiers de la ville. Marseille qui connaît une surfréquentation touristique d'environ 30% cet été. Les masques qui font également l'actualité en Italie. Il est désormais obligatoire de les porter en extérieur le soir de 18h à 6h du matin, là où des regroupements sont possibles. Autre nouvelle mesure de l'autre côté des Alpes, toutes les discothèques et les endroits où l'on peut danser, même en plein air, sont maintenant fermés. Le gouvernement en a décidé ainsi en mettant fin aux dérogations des régions. Des mesures qui sont dénoncées par l'extrême droite et bien sûr les gérants de bars et de discothèques qui ne veulent pas se laisser faire. Explication à Rome de Bruce de Galzin.
Ils ont déjà prévenu, nous nous défendrons devant les tribunaux si l'on se rend compte qu'il n'y a pas eu de foyer de contagion dans nos discothèques. Selon les gérants de ces établissements, aucun cas n'a pour l'instant été détecté. Ils dénoncent donc cette fermeture à tout prix et estiment à 4 milliards d'euros leur perte pour 2020. C'est le gouvernement qui en a décidé ainsi contre l'avis de certaines régions qui réclament des aides de l'État pour soutenir le secteur. Certaines mettent en garde aussi contre la criminalisation des gérants de discothèques. Le président de la Ligurie, par exemple, estime ces fermetures injustifiées car selon lui, la véritable urgence est économique. Et la situation sanitaire est bien gérée dans sa région, dit-il. Sur 200 lits en soins intensifs, seulement 3 sont utilisés. Ces arguments sont repris par l'extrême droite de Matteo Salvini et Giorgia Meloni pour qui l'on terrorise les Italiens avec ces mesures en mettant en péril des milliers de postes de travail. Selon le patron de la Ligue, ce sont les immigrés qui devraient être ciblés et contrôlés et non les jeunes Italiens qui reviennent de vacances ou font la fête. Sauf que les chiffres donnés par le président du Conseil supérieur de la santé parlent d'eux-mêmes. 25 à 40% des nouveaux cas proviennent des voyageurs rentrant de vacances à l'étranger. Seulement 3 à 5% peuvent être imputés aux immigrés illégaux.
Bruce de Galzin depuis Rome. Le Covid-19 qui continue de perturber également les élections présidentielles américaines. À moins de 3 mois du vote, la convention des démocrates s'ouvre ce soir pour 4 jours et elle sera entièrement sur Internet. L'ex-président Barack Obama, Kamala Harris, la colistière de Joe Biden et bien sûr le candidat lui-même prendront la parole d'ici jeudi. De quoi donner un premier coup d'accélérateur à sa campagne malgré les circonstances. À New York, Loïc Loury.
Il y a 4 ans, Mohamed Alam, vice-président des Jeunes Démocrates, était à Philadelphie pour l'investiture d'Hillary Clinton. Cette année, à cause de la pandémie, c'est de sa chambre qu'il suivra cette convention dont il compte bien ne rien rater. Un ordinateur avec 2 écrans, j'ai aussi une télévision, alors je vais regarder les infos, suivre les réunions, les discours, et nous avons un chat avec des amis. C'est comme si nous regardions la convention ensemble. L'impact d'un tel événement entièrement dématérialisé toutefois sera moindre, estime-t-il. Ce n'est pas tout à fait l'avis de Mike Corbett, qui était lui aussi présent en 2016. Je crois que ça reste quelque chose d'important en termes de diffusion du message que porte la campagne et le parti. C'est une opportunité de montrer quels démocrates nous sommes. Et puis, par bien des aspects, je crois que ça rend cette convention plus accessible. Mais moins que cette grand-messe 2.0, c'est surtout l'intronisation récente de Kamala Harris comme première colistière noire de l'histoire, qui semble avoir donné un coup de fouet à la campagne. La campagne a amassé près de 60 millions millions de dollars dans les 48 heures après sa nomination. C'est un gros indicateur de ce que pense la base de la sénatrice Harris comme vice-présidente. À charge pour cette convention de prolonger l'état de grâce des démocrates en tête dans les sondages à 77 jours de l'élection.
En Biélorussie, l'étau se resserre autour du président Loukachenko. Réfugié en Lituanie, la candidate d'opposition Svetlana Tikhanovskaya continue de contester les résultats de la présidentielle de dimanche dernier. Dans une vidéo, elle se dit même prête à revenir pour diriger le pays. Sur place, depuis une semaine, des centaines de milliers de personnes manifestent contre le président au pouvoir depuis 26 ans. Le Conseil européen va se réunir mercredi, tous les dirigeants des 27, pour évoquer la situation de la Biélorussie, l'élection contestée, mais aussi la répression des manifestations. Alors désormais, un seul homme semble pouvoir sauver le président biélorusse, Vladimir Poutine. Le président russe est désormais le dernier soutien d'Alexandre Loukachenko. Mais jusqu'à quand? Les explications de Claude Bruyot depuis Moscou.
S'il paraît évident que Loukachenko n'a plus le soutien de la majorité de la société civile biélorusse, il conserve en revanche celui des siloviki, comme on les appelle, c'est-à-dire tout l'appareil sécuritaire du pays. Tout au moins a priori, car à l'issue de ces deux conversations téléphoniques en 24 heures avec Vladimir Poutine en fin de semaine dernière, Alexandre Loukachenko a mis en avant l'aide que lui fournira le Kremlin dès qu'il en fera la demande. Pour garantir la sécurité du pays, avancent les deux hommes, comme si la loyauté des unités anti-émeutes biélorusses pouvait un jour se fissurer. Le président russe, qui n'a d'autre alternative aujourd'hui que celle d'apporter son appui à son homologue de Minsk pour conserver son influence dans la zone, doit aussi le réfréner dans sa doctrine répressive. L'image d'un Vladimir Poutine associé à la lutte de Loukachenko pour conserver le pouvoir uniquement par la force n'est pas ce que souhaite le Kremlin, qui mise davantage, lui, sur un essoufflement des protestations, avec pour seule stratégie de les dénoncer régulièrement comme téléguidés par des pays hostiles.
Claude Bruyot, depuis Moscou. 11 morts et près de 30 blessés hier à Mogadiscio. Les djihadistes somaliens Chebab ont attaqué un hôtel réputé de la capitale, tuant 10 civils et un policier des forces spéciales. L'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près d'une plage fréquentée par les dirigeants somaliens. Puis 5 hommes armés ont investi l'hôtel. Il a fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'établissement. Et si l'accord historique signé entre Israël et les Émirats arabes unis vendredi n'était qu'un début? Les deux pays ont annoncé il y a 3 jours la normalisation de leurs relations sous l'impulsion de Donald Trump. Le directeur du Mossad est aujourd'hui aux Émirats. Il s'agit désormais de préparer l'ouverture d'ambassades, signer des accords bilatéraux sur le tourisme, le transport aérien, la sécurité, l'énergie ou encore l'environnement. Et depuis 3 jours, de nombreux officiels israéliens n'en démordent pas. Selon eux, d'autres pays de la région vont rapidement emboîter le pas des Émirats et normaliser leur relation avec l'État hébreu. On retrouve tout de suite Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Frédéric, quels sont ces pays susceptibles de se rapprocher d'Israël ?
Alors ça ne va pas se faire dans les 2 semaines qui viennent évidemment, mais il y a les pays feu vert, les mieux disposés et pour qui la création d'un État palestinien n'est plus un préalable. Hier, le ministre israélien du renseignement a donc évoqué Bahreïn, Oman et le Soudan. Il y a ensuite les pays feu orange, le Maroc où subsiste encore une petite communauté juive, les touristes israéliens y sont admis et le roi du Maroc a des conseillers juifs dans son entourage. Mais avant de reconnaître Israël, le Maroc voudrait que les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Feu orange, presque rouge à présent pour le Liban. Le Liban serait-il prêt à faire la paix? Sur BFM TV, le président Aoun a répondu ceci. Ça dépend. Nous avons des problèmes avec Israël. Il faut les résoudre d'abord. Il ne dit pas non, mais les problèmes restent colossaux. La place du Hezbollah au Liban, le tracé de la frontière et les réfugiés palestiniens. Et puis, le feu est rouge pour 4 pays. L'Algérie où le FLN au pouvoir a très mal réagi après l'accord avec les Émirats, la Tunisie où le président estime que collaborer avec l'entité sioniste est de la haute trahison, le Koweït, nous serons les derniers à reconnaître Israël, déclare un officiel dans la presse locale, et puis la Syrie de Bachar el-Assad, alliée à l'Iran.
Et puis il y a un cas particulier, Frédéric, c'est celui de l'Arabie Saoudite.
Oui, c'est la première puissance économique du monde arabe, la terre natale de Mahomet et l'ennemi juré de l'Iran chiite. Les deux pays, Israël et l'Arabie, sont distants de seulement 40 kilomètres. Une reconnaissance mutuelle serait considérable. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais pour plusieurs experts, les relations souterraines entre les deux nations vont encore se développer, notamment la coopération sécuritaire contre l'Iran. Mais cette normalisation est inévitable. Propos de Jared Kushner, le gendre et conseiller Moyen-Orient de Donald Trump.
Frédéric Mettezo depuis Jérusalem et a noté que l'autorité palestinienne rejette cet accord entre Israël et les Émirats. Ramallah dénonce une trahison de Jérusalem et de la cause palestinienne. Il appelle à une réunion d'urgence de la Ligue arabe. La France va recommencer à délivrer des visas aux Libanais par solidarité après l'explosion dévastatrice du 4 août à Beyrouth. Le Quai d'Orsay précise que les personnes de 11 ans et plus devront se soumettre au protocole sanitaire normal.